Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Un tournant majeur dans l'intégration européenne, une révolution copernicienne pour l'Allemagne, un plan Merkel-Macron étonnamment ambitieux, ça c'est le titre de l'hebdomadaire Vie Économiste. Voilà quelques-uns des commentaires qui ont suivi la proposition des dirigeants allemands et français de la création d'un fonds de relance doté de 500 milliards d'euros avec un emprunt sur les marchés au nom de l'Union européenne. Bonjour Marion Van Rettergem.
Bonjour Patrick.
Journaliste, chroniqueuse à l'Express, biographe d'Angela Merkel, votre livre est paru l'an dernier aux Arènes. En ligne également, Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour Patrick Cohen.
Historien, professeur à Sciences Po, auteur du Pays des Européens avec Jacques Lévy. Sylvain Kahn, expliquez-nous simplement d'abord ce que change cette initiative. Quel tabou a été brisé ?
Le tabou qui a été brisé, c'est celui de l'émission d'une dette publique européenne par l'Union européenne en tant que telle. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, comme on sait, il y avait une monnaie unique avec une banque centrale européenne, mais il y avait également un budget européen qui est par ailleurs assez modeste, mais il n'y avait pas ce qui se fait dans n'importe quel État ou dans n'importe quel pays, c'est-à-dire la capacité pour un État et un gouvernement de se tourner vers les marchés financiers, soit domestiques, soit internationaux, en disant, bah écoutez, voilà, j'ai des politiques publiques formidables à financer, par conséquent, j'aimerais emprunter de l'argent, et comme je suis un État très fiable, vous allez me prêter à des taux d'intérêt très avantageux. Voilà, ça c'est ce que fait la France, l'Italie, la Lituanie, l'Espagne, l'Irlande, tous les pays européens font ça chacun de leur côté, depuis des années, pour ne pas dire depuis des siècles. Et depuis 70 ans que l'Europe existe, elle-même, en tant que telle, ne le faisait pas. Or, l'Union européenne, c'est un État, si vous voulez, que les marchés vont adorer, parce que c'est un État extrêmement solide, c'est un pays très grand, 500 millions ou 450 millions d'habitants, très riche, qui est vierge de tout endettement. Donc, pour tous les investisseurs, que ça soit les épargnants, les gens qui ont de l'assurance vie ou les établissements financiers, eh ben, prêter à l'Union européenne, ça va être du pain béni. Voilà. Mais jusqu'à présent, ça ne se faisait pas parce que, disons que les États n'étaient pas tous d'accord entre eux pour le faire, ou que certains épargnants en Europe n'étaient pas d'accord. Mais là, maintenant, il y a clairement une préférence collective de toute la part ou de la majorité de la société européenne pour le faire. Et même ceux qui étaient réticents comprennent que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt général des Européens.
Marion Van Rettergem, comment voyez-vous cette évolution-révolution ?
Oui, vous avez parlé de révolution copernicienne et je pense que c'est bien de ce dont il s'agit parce que c'est un véritable renversement des perspectives auquel on a assisté. En politique, les mots, ça compte. Alors, ça compte un peu moins parfois en France qu'en Allemagne. En France, on est volontiers plus lyrique. Mais en Allemagne et surtout dans la bouche d'Angela Merkel, qui n'est vraiment pas une lyrique, ça veut dire quelque chose. Donc, quand on parle de solidarité, quand on parle d'intégration, de politique industrielle, de champions européens, ce sont les mots qu'elle a employés, c'est vraiment une avancée gigantesque et sans compter quand même devant le Bundestag, avant la conférence de presse avec Emmanuel Macron, Angela Merkel a fait référence à Jacques Delors, ce qui n'est pas rien, quand on sait que pour Jacques Delors, il n'y a pas d'union monétaire sans union politique, sans convergence économique dans une intégration politique. Et ce qui était important aussi dans ce qu'ils ont dit l'un et l'autre lors de cette conférence de presse, Macron et Merkel, c'est une reconnaissance des erreurs passées. Macron a mis en cause les programmes d'austérité qui ont précédé au moment de la crise financière de 2008-2011 notamment, ou de la crise des dettes souveraines en 2011, qui avait conduit certains pays à vendre des infrastructures, notamment aux Chinois, des ports, etc. Et Merkel, elle, a remis en question le droit de la concurrence, un dogme de l'Union européenne qui empêche la constitution des grands champions européens. Elle a parlé elle-même de ces champions. Elle a dit « Nous devons avoir le courage de créer des champions au niveau mondial ». Et ça, c'est vraiment énorme, révolutionnaire. Et l'un et l'autre, Macron et Merkel, ont parlé d'un changement de philosophie, d'un changement d'optique. Alors, je ne sais pas si ça ira vers une union politique, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On en est qu'au stade de la déclaration franco-allemande, d'une déclaration d'intention. Il y a encore, on est 27 pays, on n'est pas que deux. Donc, la partie n'est pas du tout gagnée. Mais malgré tout, c'est un pas énorme qui a été franchi.
On va y revenir à ces implications, notamment sur le plan de la concurrence, parce que, comme vous l'avez dit, des champions européens, il y en a eu quelques-uns d'empêchés à cause des règles européennes. Qu'est-ce qui a fait bouger Angela Merkel, Marion ?
Alors, Merkel, il faut dire que d'abord, elle est lente. C'est quelqu'un de lent. Ça énervait d'ailleurs en particulier le président Sarkozy, qui n'est pas d'un tempérament très lent et qui était beaucoup plus agité. Elle est lente à la fois comme personne et comme institution. Elle est lente comme scientifique et elle est lente comme dirigeante d'un pays, d'une république fédérale qui elle-même fonctionne de manière plus démocratique et plus lente que la nôtre. Ce qui l'a fait bouger, c'est que d'abord il y a quelque chose chez Angela Merkel qui n'est pas une grande ambitieuse, qui n'est pas une grande audacieuse en politique. Elle a bougé 3 fois dans sa vie au cours de ses 4 mandats. Elle a eu 3 fois des réactions instinctives, assez inattendues, qui allaient parfois au contraire dans un sens inattendu par rapport à sa politique, parfois même par rapport à son parti. La première fois, c'était au moment de la catastrophe de Fukushima, quand elle a tout d'un coup, du jour au lendemain, décidé l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Elle franchissait, là aussi, elle a brisé un tabou. La deuxième fois, c'était, on se souvient bien, au moment de la crise des migrants de 2015, avec son fameux Wir schaffen das, et qu'elle a décidé d'accueillir sur le sol allemand plus d'un million de réfugiés. D'ailleurs, ensuite, le pays a réussi à les intégrer de manière admirable. Et là, c'est la troisième fois que Merkel prend une décision qui va totalement à l'envers des normes, des habitudes allemandes, de ces dogmes. Mmh. Alors, à la fois, c'est l'européenne qui parle, hein, parce qu'elle n'a plus d'enjeu électoral, contrairement à Emmanuel Macron. Elle est assez libérée, c'est son 4e mandat, elle ne se représentera pas. Et en même temps, il ne faut pas être naïf. Si elle a bougé, ce n'est pas par philanthropie. C'est parce que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne. Et là aussi, c'est une des phrases qu'elle a prononcées qui est significative. Elle a dit, si l'Europe est faible, l'Allemagne est faible. Donc Merkel comprend très bien, et c'est ce qu'elle a fait passer devant le Bundestag, que l'Allemagne, d'abord, qui est un pays d'exportation, qui exporte très majoritairement dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peut pas se permettre de tolérer une Europe faible. Elle a vu aussi les dangers qui s'accumulaient, les dangers d'une perception d'un très national de cette crise qui a été horriblement mal gérée par l'Union européenne au départ. Donc elle a vu des replis nationaux se mettre en place. Elle a vu l'europhobie montant en Italie comme on ne l'a jamais vu. Il y a un sentiment europhobe en Italie extrêmement très fort. Et elle a parlé, là aussi, c'est un mot-clé de son discours, elle a parlé de cohésion. Et je pense qu'elle a compris que la cohésion européenne était mise en cause, et notamment qu'on pouvait exacerber la fracture qui est l'une des plus graves, enfin qu'elle perçoit elle comme la plus dangereuse et qu'il est à vrai dire, qui est la fracture entre le Nord et le Sud, que les trois grands pays socles de l'Union européenne, trois pays fondateurs, non pas l'Espagne, mais en tout cas la France et l'Italie, deux pays fondateurs et en plus l'Espagne, sont les plus touchés par le Covid et les moins armés, les plus mal en point pour faire de la relance budgétaire parce que ce sont les plus endettés. Donc elle craignait vraiment cette déstabilisation en route, et le déclic, ça a été, je pense qu'on pourra en reparler, la décision de la Cour de Karlsruhe qui a finalement reproché à la Banque Centrale Européenne d'aller trop loin dans le financement des budgets nationaux. Elle a revendiqué une forme de suprématie sur le droit européen, et ça, Angela Merkel a considéré que c'était extrêmement grave. Ça a été un peu le déclic et le fait qu'elle a pu réagir avec cette espèce d'instinct, de spontanéité et de vitesse, comme elle l'avait fait 2 fois auparavant au cours de ses 15 ans de règne.
En contournant la cour de Karlsruhe, en quelque sorte. On va y revenir dans un instant, Sylvain Kahn, Marion Van Rettenhergem, et on va voir surtout quelles sont les chances de ce projet d'aboutir auprès des 27. À tout de suite.
Europe 1. Tous les samedis, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Avec la journaliste Marion Van Rettenhergem et le professeur à Sciences Po Sylvain Kahn, maintenant qu'on a fait le constat de ce changement majeur, il faut s'interroger sur les chances de le voir aboutir à l'unanimité des 27. Ce sera l'enjeu du sommet européen des 18 et 19 juin. Sylvain Kahn, l'Autriche a déjà dit non. Ça peut changer ?
Bien sûr, ça peut changer. Vous savez, on peut prendre un précédent historique qu'on peut rappeler très très rapidement, qui est la mise en place du système monétaire européen en 1979, qui a été pendant deux décennies. Oui. L'ancêtre de l'euro. Et on a dit à l'époque, voilà, c'est formidable, ce couple franco-allemand incarné à merveille par ces deux gendres idéaux qui étaient Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, a fait quelque chose de formidable. Et ce faisant, on a juste oublié que il avait fallu 7 ans de débats, de divergences et de discussions pour arriver à la mise en place de ce système monétaire européen. Là, je pense que la mise en place du plan proposé par Madame Merkel et Monsieur Macron va mettre beaucoup moins de 7 ans, sauf si on considère que c'est un sujet qui est sur la table depuis une vingtaine d'années et que par conséquent, comme dans n'importe quel, on pourrait dire n'importe quel régime délibératif, si vous voulez, vous avez des opposants, vous avez des partisans, vous allez avoir des négociations, vous allez avoir des marchandages, et donc chacun rentre dans la négociation avec sa position de départ, où il va forcément faire un peu de surenchère. Et là, dans un État, dans une nation, en général, on a surtout des partis politiques représentés au sein d'un Parlement, qui est élu au suffrage universel par des citoyens, et puis la société civile est représentée par des acteurs qui peuvent être antagonistes ou convergents. Eh bien, en Europe, c'est la même chose. Vous avez ça. Il y a d'ailleurs un Parlement européen. Il y a ce qu'on appelle les groupes d'intérêt qui essayent de se faire entendre, les industriels, les écologistes, les scientifiques, les salariés, etc. Et puis, vous avez aussi un autre grand type d'acteurs dans cette espèce de démocratie un peu baroque qu'est l'Union européenne. Et ces grands types d'acteurs très particuliers sont des États souverains, un peu comme vous avez dans un grand pays fédéral comme l'Allemagne, les États-Unis ou le Brésil, à la fois un État central avec un Parlement dans lequel vous avez un Parlement élu par les citoyens et une Chambre des États fédérés. Bon ben l'Autriche est l'un de ces États fédérés par ailleurs souverains puisque c'était un pays et il commence tout de suite en disant ah ben nous on n'est pas d'accord, mais il sait très bien que dès lors que deux des principaux pays qui a eux seuls, l'Allemagne et la France, ne peuvent avoir la majorité, vont néanmoins mettre tout leur poids dans la balance. L'Autriche, comme la Suède, comme le Danemark, comme la Finlande, savent très bien qu'ils vont devoir négocier. Donc c'est une position d'entrée dans la négociation pour que le compromis qui sera au final trouvé à l'unanimité ne soit pas trop éloigné, on va dire, de la manière dont ils voient les choses. Vous savez, Patrick Cohen, depuis 2 mois qu'il y a cette crise du coronavirus, il y a eu peut-être à intervalles très réguliers des inquiétudes de la part des commentateurs disant oh, « Mais regardez, l'Autriche n'acceptera jamais ceci, la Suède non plus, le Danemark cela. » Et puis 15 jours après, 3 semaines après, « Ah ben finalement, l'Autriche a accepté à l'unanimité avec tous les autres que la règle, la fameuse sacro-sainte règle des 3% soit suspendue. Ah, finalement, l'Autriche a accepté, comme le Danemark, la Finlande et la Suède, que finalement, on mette un plan de garantie de 500 millions d'euros sur la table. Et ça aussi, c'était à l'unanimité. On a finalement accepté, alors que 3 semaines avant, ce n'était pas le cas, que le mécanisme européen de solidarité soit déclenché sans aucune contrepartie. Donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe depuis 2 mois, mais les habitudes sont tellement ancrées, si vous voulez, dans la manière dont l'actualité va très vite, qu'on a tout de suite l'habitude de dire « Ah ben non, les Européens n'arriveront pas à s'entendre, il va y avoir des blocages », alors qu'au contraire, c'est juste des discussions, des négociations qu'il y a, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle grande entité délibérative. Et au final, encore une fois, les sondages dans tous les pays depuis 2 mois, toutes les opinions publiques montrent un sentiment majoritaire pour ce qui est en train de se mettre en place. Et bah, puisque on est encore en démocratie dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, il n'est pas rare que les gouvernants soient sensibles, aux desiderata ou aux souhaits ou à l'intelligence de leurs opinions publiques. Et là, évidemment, ça paraît très important vu l'ampleur des financements publics qui sont mis sur la table par tous les Européens, de passer par cet instrument d'une dette publique européenne qui va permettre de la garantir aux yeux du monde entier.
Oui, dette publique, Marion van Rettergem, endettement commun, est-ce que c'est l'amorce d'un budget européen commun, je veux dire d'un budget substantiel davantage qu'aujourd'hui, et donc avec des transferts financiers des plus riches vers les moins riches, c'est ça que ça veut dire ?
Écoutez, j'ai entendu une note d'optimisme dans ce que venait de dire Sylvain Kahn, donc je vais sans doute faire l'avocat du diable, mais je pense que ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. D'abord parce que il y a un moment où quand le couple franco-allemand disait quelque chose, tout le monde suivait. Là, dans cette Europe à 27, beaucoup plus morcelée, avec des tas de fractures internes, c'est un peu plus compliqué de convaincre 25 autres pays. Et je dirais que là, on est comme au tennis, quand on suspend le match avant la nuit et qu'on le reprend, la nuit va être assez longue. Il y a beaucoup d'étapes. D'abord, on n'a même pas encore élaboré le budget européen pluriannuel. Oui. Là, la Commission, ce qu'on attend, c'est que la Commission présente dans le détail un plan en fonction de l'accord proposé par la France et l'Allemagne, et aussi en tenant compte des réticences des pays qu'on appelle poliment les frugaux et plus crûment les radins. Il va ensuite y avoir le président du Conseil qui va devoir bâtir une unanimité, puis les parlements nationaux vont devoir voter, puisque cet accord a une incidence budgétaire et touche à l'argent public. Donc l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, est démocratique, donc elle fait appel au Parlement européen. Enfin, tout ça, on va être dans un chemin extrêmement long. Alors c'est vrai que l'impulsion est très forte, l'impulsion franco-allemande est très forte, que Merkel s'est montrée extrêmement déterminée et engagée. Or, elle est vraiment la représentante des pays du Nord, hein, des bons élèves de la classe, de ceux qui maintiennent la discipline budgétaire. C'est intéressant de noter que dans la rédaction de cet accord avec la France, c'est Merkel elle seule qui a insisté pour noter, pour gravé dans le marbre, ce chiffre de 500 milliards d'euros. Les Français étaient plus propices, avaient une propension à rester un peu plus dans le flou. Elle a voulu, comme elle est toujours très maniaque des détails dans la rédaction des accords et des traités, c'est elle qui a tenu à inscrire ce chiffre des 500 milliards. Mais malgré tout, donc le front des opposants est très important. Il y a d'abord donc ces frugaux, ces quatre radins que sont le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche. Le Danemark en tête, d'ailleurs, il semble que c'est la première ministre danoise soit la plus réticente, qui sont donc parfois des petits pays, mais avec des économies extrêmement compétitives, des finances publiques irréprochables, etc. Mais il ne faut pas non plus négliger l'Europe de l'Est. Sylvain parlait des démocraties, l'Europe était plus ou moins démocratique, je pense qu'il pense en effet à la Hongrie, à la Pologne, mais ceux-là, ils ont des raisons d'accueillir de manière plus que modérer cet accord et sans enthousiasme, puisque c'est un accord donc qui prévoit une ligne dans le budget correspondant au remboursement de cet emprunt. Or, ce budget c'est précisément l'argent du budget qui aide ces pays d'Europe de l'Est avec les fonds structurels. Donc je pense qu'ils redoutent certainement que les fonds structurels soient empiétés en raison de ce budget supplémentaire. Donc qu'est-ce qui va rester de...
Oui. On va suivre ça, Marion Van Rettergem. Il y aura d'autres épisodes et on vous écoutera, on peut lire vos chroniques chaque semaine dans l'Express. Et relire Angela Merkel, un ovni politique aux arènes. Merci Sylvain Kahn, le versant optimiste de notre séquence. Votre dernier livre avec Jacques Lévy, paru l'an dernier, Le pays des Européens chez Odile Jacob. Très bien.